Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Jusqu'au 4 septembre, la Grande Halle de la Villette accueille l'exposition James Bond 007, 50 ans de style Bond. Son porte-parole est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Nous avons visité cette exposition la semaine dernière avec toute l'équipe et je dois dire que se retrouver dans les décors ou des fragments de décors des grands films de James Bond, avec les costumes originaux, les accessoires originaux, tout ça ne m'a pas laissé indifférent, loin de là. C'est tout un univers, toute une époque qui se déploie autour de nous. Alors tout à l'heure, en compagnie de Laurent Perriot, nous allons tenter de vous donner un bel aperçu de tout cela.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Thierry sur les origines de l'expression « se tenir à carreau ».
Eh bien pourquoi pas. Pour le moment, nous avons rendez-vous avec le plus célèbre des agents secrets de Sa Majesté.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il porte aussi bien le Spencer blanc que le maillot de bain moulant, cache des émetteurs dans ses talonnettes, des bombes dans les cartouches de ses stylos de platine. Il circule en Aston Martin et boit des vodka martini, mais ne dédaigne pas le pouce-pouce, où il doit parfois ingurgiter de sinistres breuvages. Il fait tourner la tête de Money Penny depuis toujours et donne assez mal à la tête de M. Vous avez reconnu Bond, James Bond, l'agent 007. Hasard, le cinquième roman de la série de James Bond qui a été publié en 1957 au Royaume-Uni. Notez bien, on est donc, c'est toute une série du début des années 50, on y reviendra tout à l'heure. Celui-ci, le cinquième, s'appelle Bon baiser de Russie et je lis alors au hasard. Hein, elle saisit le flacon d'huile pour masser le visage. Les pouces de la jeune femme avaient à peine exercé un début de pression dans les orbites aux yeux clos que le téléphone se mit à sonner dans la maison. En un instant, l'homme s'était dressé sur un genou comme un coureur attendant le coup de pistolet. Mais il n'alla pas plus loin, la sonnerie s'arrêta, il y eut le murmure d'une voix. La jeune femme ne put entendre ce que disait cette voix, mais elle avait une intonation servile comme celle de quelqu'un qui reçoit des ordres. La voix s'éteignit, l'un des domestiques apparut à la porte, fit un geste d'appel et rentra dans la maison. Le geste n'était pas achevé, que l'homme nu était déjà en train de courir. La jeune femme guetta l'éclair du dos brun dans l'ouverture de la porte de verre. Il valait mieux qu'il ne la trouvât pas là quand il ressortirait. Elle ne faisait rien sans doute, mais elle aurait pu entendre. Elle se leva, alla en deux enjambées jusqu'à la bordure du ciment et plongea avec grâce dans la piscine. Mieux valait, pour la paix de son esprit, qu'elle ne sût pas qui était l'homme qu'elle venait de masser. Le vrai nom de cet homme était Donovan Grant, dit Red Grant. Mais depuis 10 ans, il était devenu Krasnogranitsky avec le pseudonyme de Granit. Il était chef exécuteur du SMERSH, la section meurtre du MGB, et il était en train de recevoir ses instructions par ligne directe avec Moscou. Ian Fleming nous propose une intrigue dans Bon baiser de Russie, intrigue dans laquelle le service d'espionnage russe, le SMERSH, décide de tuer James Bond. On est bien entendu en pleine guerre froide. Même si les services secrets, les services de renseignement ont toujours existé, on a eu l'occasion de le dire souvent à ce micro, et le Secret Intelligence Service britannique, le MI6 en l'occurrence, existe depuis 1909, la guerre froide est une guerre d'espionnage. C'est essentiel d'en être conscient. On ne se bat plus, ou en tout cas presque plus, sur le terrain des opérations. On se bat par espions interposés partout où on peut en mettre de ces espions. On met sur écoute toutes sortes de personnes. On recueille le plus d'informations possibles sur les programmes nucléaires, sur les incidents de frontières essentiels pour cette époque. On essaie de repérer les agents doubles, bien entendu. En 1945, les Soviétiques ont une longueur d'avance dans ce domaine. Il faut vous dire que dès 17, ils s'étaient eux dotés d'un service de renseignement. La célèbre police politique, la Tchéka, qui deviendra le KGB, doit-on dire, semble-t-il, en 1954. Les Américains ont mis sur pied leur propre service de renseignement pendant la Seconde Guerre mondiale, le fameux OSS, et en 1947 est créé la CIA, on dit nous la CIA, ce service de renseignement qui pratique aussi bien la guerre économique que politique d'ailleurs, qui pratique le sabotage, qui soutient un certain nombre de mouvements, de régimes anticommunistes, qui va mettre au pouvoir aussi un certain nombre de personnes, notamment en Amérique du Sud. L'un des premiers terrains d'espionnage c'est le contre-espionnage qu'on pratique à Berlin. Il ne faut pas oublier que Berlin est une des plaques tournantes de l'espionnage, comme il y avait eu Tanger, on va dire, pendant la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1948, grâce à la CIA, 280 000 vols acheminent des tonnes de fret, alors que les Soviétiques pratiquent autour de la capitale est et ouest allemande un véritable blocus. Tous les outils sont bons pour mener ces missions. Des déguisements pour aller dans des réunions secrètes, des lunettes pour regarder derrière soi, un pistolet cigarette, des micros cachés dans les stylos, les chaussures, les paquets de cigarettes. Enfin, on met des micros à peu près partout. Des appareils photos que l'on installe dans des montres ou dans le bouton d'un manteau. Des bombes lacrymogènes, des parapluies poison, les fameux parapluies bulgares, etc., etc. De quoi faire rêver les gens, bien entendu. Cette guerre d'espionnage, c'est un sujet idéal pour la littérature et pour le cinéma. Rappelez-vous le grand film fondateur d'Alfred Hitchcock en 1946, Les Enchaînés, avec Cary Grant et Ingrid Bergman, film magnifique dans lequel la fille d'un espion allemand travaille avec un agent secret américain. En 49, l'action du film Le Troisième Homme avec Orson Welles se passe à Vienne. Un écrivain américain vient y rejoindre un de ses anciens amis qui est en fuite et qui est impliqué dans toutes sortes de trafics. Eh bien, on va voir la même chose dans la littérature. Les grands noms du roman d'espionnage sont Graham Greene, bien entendu. Il va y avoir un certain nombre comme ça de grandes figures. Même Agatha Christie s'en mêle d'ailleurs, hein, puisqu'on va voir apparaître dans les années 50 pas mal d'espions dans les romans d'Agatha Christie. Côté français, on peut citer Jean Bruce, qui est l'auteur de la série OSS 117, bien sûr. Antoine Dominique, avec sa série Le Gorille. Il y en a d'autres. C'est en 1953, dans ce contexte d'effervescence et de spionnite aiguë, que va donc naître James Bond. Agent des services secrets britanniques, officier du Secret Intelligence Service. Il est donc un agent du MI6, James Bond, matricule 007. C'est lui qui invente donc Ian Fleming dans cette vague de romans d'espionnage, hein, bien entendu. L'idée, c'est de montrer à l'œuvre des défenseurs du monde libre, comme on disait à cette époque. Le créateur de James Bond, Ian Lancaster Fleming, était né en 1908. Il était né dans une famille très fortunée de Londres. Son grand-père avait fondé une banque. Son père était avocat, député. Enfin, vous voyez un peu la gentry britannique. Mais ce père meurt pendant la Première Guerre mondiale sous un obus allemand, alors que le petit Ian n'a que 9 ans. Et bien qu'il fasse des études dans le plus prestigieux collège britannique, à Eton, vous savez, là où étudient les princes de la famille royale, eh bien, le petit Ian n'est pas un très bon élève. Sa mère se dit que décidément cet adolescent est impossible. Et elle l'envoie dans une école, on dirait nous, une boîte à bachot en Autriche, à Kitzbühel. Cette école est dirigée par un ancien membre du MI6 et par sa femme. Sa femme est romancière et elle encourage les enfants à écrire. Donc ça, c'est pas mal. Ian va découvrir là les langues étrangères, et notamment l'allemand. Il commence un petit peu à écrire. Lui voudrait devenir militaire. Mais il va échouer à l'examen d'entrée justement des services du Foreign Office. Et grâce à sa mère, il va devenir simplement journaliste. Il a 23 ans quand il entre à l'agence Reuters, la célèbre agence de presse de Londres. Il va travailler pour Reuters à Berlin, puis à Moscou. Et c'est à Moscou qu'il découvre sa première affaire d'espionnage.
A cold finger beckons you to enter his web of sin.
Le générique du troisième volet des aventures de James Bond, réalisé par Guy Hamilton, sorti en 1964 avec Sean Connery en 007. Goldfinger, interprété par Shirley Bassey sur Europe 1, musique de John Barry. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur Ian Fleming, avant qu'il nous raconte les fabuleuses aventures de l'agent 007.
Et déjà, il est à Moscou, il observe les rebondissements d'une assez sinistre affaire d'espionnage. On est en pleine époque stalinienne, on est au début des années 1930. Bon, le journalisme ne passionne pas Ian Fleming, puis surtout, quand on a soi-même une fortune tellement considérable, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse dans le journalisme? C'est trop mal payé, estime-t-il. Il va donc abandonner la profession pour se faire courtier. On dit de lui qu'il est un des pires courtiers en action au monde. Vous voyez comme il est doué, hein, décidément. Ça l'empêche pas de mener la grande vie. Il fréquente la sphère financière londonienne. Il passe ses week-ends en France. Vous imaginez ce que peuvent être les week-ends des riches londoniens sur la Côte d'Azur dans les années 1930. Vous imaginez. Alors on le voit aux tables de casino, bien entendu, au golf. Il a toutes sortes de conquêtes féminines. Bref, ça commence à nous rappeler quelqu'un, tout ça, évidemment. C'est aussi un sportif accompli, hein, faut dire, comme tous ces gentlemen britanniques de l'époque, hein, il nage beaucoup, il skie admirablement, enfin bref, il est bon dans tous les domaines sportifs. Il picole pas mal aussi, oui, c'est pas faux. Et lorsque éclate la guerre en 1939, l'amiral John Godfrey, qui est directeur du British Department of Naval Intelligence, si vous voulez, les services secrets de la Royal Navy, qui est très intéressé par les compétences de Fleming et notamment par son aspect polyglotte, car cet homme-là parle le français et l'allemand comme cette langue natale, eh bien, le patron des services secrets marins, devrais-je dire, va l'engager comme assistant. Fleming devient donc le bras droit du directeur du renseignement naval et il va occuper ce poste pendant 6 ans. Il noue des contacts à ce moment-là, bien sûr, avec tous les autres grands réseaux de renseignements alliés, américains essentiellement. Hein. Il va discuter avec les chercheurs de Bletchley Park, vous savez, qui tentent de décoder les messages des nazis. Il recrute lui-même, il va briefer un certain nombre d'agents pour les entraîner à des missions commando. L'une d'entre elles s'appelle GoldenEye, une mission secrète qui vise à protéger Gibraltar en Espagne. C'était absolument essentiel, d'ailleurs, dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et beaucoup plus tard, dans une interview, Ian Fleming reconnaîtra ceci. « J'ai adoré, dit-il. J'ai voyagé un peu partout, mêlé à toutes sortes d'équipés. C'était passionnant. » On peut dire que pour lui, la Seconde Guerre mondiale n'a pas été un moment creux, loin de là. Hein. Et à la fin de la guerre, il retourne néanmoins à des activités d'écriture, de journalisme. Il devient notamment chef du service étranger d'un groupe de presse britannique. Ça lui permet ça d'avoir 3 mois de vacances par an, c'est ce qui lui plaît, pour tout vous dire. Et du coup, tous les ans, juste après Noël, Fleming part pour la Jamaïque, un pays qu'il a découvert durant la guerre, et il s'installe donc pour la période de l'hiver dans une petite maison baptisée GoldenEye, justement, où le confort est assez rudimentaire, mais enfin il fait beau hein, là-bas. Alors c'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas d'eau chaude et pas de vitre aux fenêtres au début, une petite cuisine, mais enfin bon, c'est un bungalow sous les cocotiers, disons-le. Et c'est là que Ian Fleming écrit son premier James Bond, qui va sortir à Londres en avril 1953. Et ça va faire du bruit, c'est Casino Royale. Le nom du héros vient d'un ouvrage, d'un de ses livres préférés, hein, Oiseau des Antilles, qui avait été écrit par un auteur un peu obscur. Dans ce roman, il est question d'un certain James Bond. Eh bien, il a repris ce nom-là. Le premier roman, donc, Casino Royale, remporte un certain succès. Il est immédiatement adapté pour la bande dessinée et pour la télévision, qui fait ses tout premiers pas. On est en avril 53, vous imaginez, il n'y a pas beaucoup de postes de télé encore. Pour l'anecdote, Casino Royale ne sera publié en France qu'en 1960 et les patrons de la série noire chez Gallimard refusent le roman. Il sera publié par les éditions Presse Internationale sous le titre « Espion, faites vos jeux » et ensuite il sera publié par épisode dans le magazine Elle. Casino Royale, c'est très autobiographique, somme toute. On a l'impression de lire des épisodes entiers de la vie de Ian Fleming, surtout à l'époque où il était donc dans ses services de renseignement de la marine britannique. La scène de jeu vient d'une anecdote qui lui est lui-même arrivée au Portugal. Fleming s'était rendu au casino d'Estoril, qui était un véritable nid d'espions, encore une plaque tournante là de l'espionnage. Et puis il a joué et il a gagné contre des agents allemands. De nombreux nombreux agents secrets que Fleming a rencontrés pendant la guerre ont inspiré le personnage de Bond. C'est très difficile de savoir de qui James Bond est véritablement le fils. Vous savez, on peut trouver des origines de James Bond chez pas mal de célèbres agents. L'amiral John Godfrey, qui était le supérieur de Ian Fleming dans le renseignement naval, a probablement inspiré le personnage de M, le directeur des services secrets britanniques, même si certains personnages pensent que ce personnage serait en vérité la propre mère de Fleming, hein, qui était une bonne femme très sévère, très exigeante et dont on retrouve certains traits dans le comportement de ce mystérieux M. Certains épisodes rappellent aussi des événements survenus pendant la guerre et par exemple la tentative d'assassinat sur James Bond à Royal Les Eaux qui s'inspire directement d'une tentative d'assassinat sur von Papen. Vous savez, von Papen, vice-chancelier et ministre des Affaires étrangères d'Hitler. Papen avait réussi à survivre à cette tentative de meurtre grâce à des arbres qui l'avaient protégé du souffle de l'explosion, exactement comme dans Casino Royal. Quant au fameux matricule, me direz-vous, et ça ressemble un peu, Omblin, à un retour aux origines, d'une certaine manière. Ouais. D'où vient ce 007? Eh bien, il se trouve que pendant la Première Guerre mondiale, au moment de la victoire des services secrets, on avait réussi à décoder un télégramme allemand qui commençait par 007. Et ça, c'était devenu une sorte de mythe dans l'histoire des services secrets. C'est de là que vient le 007. Alors, en outre, dès le premier roman, Bond apparaît un peu comme une sorte d'expression de l'auteur lui-même. Quand James Bond parle, c'est un peu Fleming qui s'exprime. D'ailleurs, il adore les voitures et les jolies filles exactement comme Fleming. Avec ses nœuds papillons, ses vestes rayées, il incarne l'élégance, le flegme britannique. Ça va jouer un grand rôle, ça, non seulement pour le succès des romans, mais surtout, bien sûr, et bientôt, dans le succès des films. Ian Fleming adore le vodka martini, comme par hasard. Il boit d'ailleurs un quart de bouteille de gin et fume 70 cigarettes par jour, ce qui ne l'empêche pas de piocher de temps en temps dans le caviar. Enfin, tout ça, c'est l'ambiance James Bond, c'est un peu la vie de Ian Fleming, disons-le. Pas mal de points communs. Alors, les filles, constamment, bien entendu. Pas mal de filles, pas mal d'alcool. Comment voulez-vous avec tout ça, avec une telle recette, que le résultat n'ait pas conquis les foules?
Le plus célèbre agent secret au service de Sa Majesté est au cœur de l'histoire et pour réagir tout au long de l'émission, nous envoyez vos messages et vos questions. Il y a la page Facebook de l'émission par mail europe1.fr ou via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Vous restez avec nous et vous retrouverez Franck Ferrand dans un instant pour continuer de parler de Ian Fleming, auteur à l'imagination très fertile de la fabuleuse saga James Bond.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Dans le smoking de 007 cet après-midi, dans Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand, vous feuilletez les romans de Ian Fleming, les romans de James Bond.
Alors, après Casino Royale, ça a tellement bien marché qu'il se dit il va continuer, bien sûr, Ian Fleming. Et tous les hivers, maintenant, il va passer 3 ou 4 mois au soleil, donc à la Jamaïque, hein, dans sa bicoque, qui s'améliore d'ailleurs, de GoldenEye. Et il écrit généralement en 8 semaines un nouveau roman. Et alors, il y en a toutes sortes. Vivre et laisser mourir, Moonraker, Les diamants sont éternels, Bon baiser de Russie, James Bond contre Dr. No, Goldfinger, Opération Tonnerre, etc. qui sont des succès populaires traduits tout de suite en plusieurs langues. Et dans une interview, Fleming dit « Mes romans s'adressent aux adultes mâles au sang chaud et sont à lire au lit, au train, ou en avion. » Mais c'est un peu ça, ce qu'on appelait les romans de gare. Vous savez que j'appelle les romans de piscine, moi, c'est ces espèces de livres de poche qui finissent par être tout boursouflés à force d'avoir reçu des éclaboussures. Mais bon, en même temps, ça fait penser aux vacances, au bon temps. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a généralement pas besoin de se faire des nœuds au cerveau pour lire un James Bond. Hein. Et puis, surtout, ne l'oublions pas, et c'est important dans une émission comme la nôtre de le souligner, ces livres sont un outil politique. Lorsque le magazine Life demande à John Kennedy en 1961, donc il est président des États-Unis, de donner la liste de ses 10 ouvrages préférés. Il classe, on imagine que la liste est passée entre-temps par le FBI et par la CIA, hein, et il classe Bon baiser de Russie en 9e position. D'ailleurs, au cours d'un dîner à la Maison-Blanche, Kennedy demande à Fleming comment on pourrait faire pour se débarrasser de Fidel Castro, qui était le leader communiste cubain qui donnait tant de fil à retordre à l'époque aux États-Unis. Et Fleming répond avec humour que la CIA devrait survoler Cuba et déverser des tracts disant aux Cubaines que les barbes comme celle de Castro retiennent la radioactivité et que ça les rend impuissants. Voilà la réponse de Fleming. Il est devenu un petit peu, grâce à James Bond, un peu l'ambassadeur de ce qu'on appelle à l'époque le monde libre. Hein. Et le moyen de propagande essentiel, évidemment beaucoup mieux que le roman et encore mieux que la télévision à l'époque, c'est l'art majeur de ces années 60, c'est le cinéma, bien entendu. En 1961, un producteur canadien pas très connu, Harry Saltzman, on en parlera tout à l'heure, il achète les droits des romans pour les adapter. Les droits sont rachetés, en tout cas en partie, c'est un peu compliqué, par un certain Albert Broccoli. Et puis finalement, ce sont les deux producteurs qui vont se mettre ensemble, s'associer pour le premier James Bond, avec un budget très limité, hein, d'ailleurs $1 million de l'époque. Le réalisateur n'est pas n'importe qui, c'est Terence Young. Broccoli a déjà produit les films de Young. Alors on choisit d'adapter James Bond contre Dr. No, qui était paru en 58, parce que ça permettait d'avoir un seul décor. En l'occurrence, ça se passe à la Jamaïque. Pas de séquences trop coûteuses. Bref, un budget raisonnable. Et ensuite, il faut trouver un acteur. Alors, évidemment, l'acteur qui s'impose, ça paraît tout à fait évident, c'est Cary Grant, bien entendu, qui est par définition le James Bond. Et d'ailleurs, on peut se demander jusqu'à quel point, quand il écrivait ses premiers romans, Ian Fleming ne pensait pas à Cary Grant. Le problème, c'est que Cary Grant, à l'époque, est l'acteur le mieux payé de la planète et qu'il est beaucoup trop cher pour la production. Alors, à lui tout seul, il lui fallait $1 million, donc ça, c'est un petit problème. Donc, on va se tourner vers un inconnu, vers un acteur relativement peu connu, devrais-je dire, pour être plus exact, qui est écossais, vous me voyez venir, c'est bien sûr Sean Connery, qui ressemble d'ailleurs pas mal au James Bond de la bande dessinée, ça tombait bien. Alors, avec sa partenaire Ursula Andress, bien entendu, elle aussi assez inconnue à l'époque, ils vont crever l'écran. On a pas mal de problèmes sur ce tournage, bien entendu, parce que évidemment, il n'y a pas de gros budget pour Sean Connery. Les costumes viennent de chez un tailleur londonien, bien entendu, qui est le tailleur de Fleming, d'ailleurs, Anthony Sinclair. Pour l'anecdote, Sean Connery aurait préféré un jean et un bon beurre. Et Terence Young avait conseillé à l'acteur de dormir dans ses costumes pour s'y sentir plus à l'aise. C'est très londonien, ça, somme toute. La garde-robe des autres acteurs est limitée au minimum, et je ne fais pas de jeu de mots en disant ça. La robe de l'actrice Eunice Grayson est une robe trouvée dans une boutique qui a été retouchée par une assistante de plateau. Vous voyez un petit peu, on est loin de ce qui va fleurir par la suite. On va y venir dans un instant. Quant aux tenues d'Ursula Andress, elles ont été tout simplement fabriquées sur place par une couturière de la Jamaïque, et c'est sans doute ce qui va leur donner ce côté extraordinaire et mythique. Quant à Miss Money Penny, eh bien, elle porte tout simplement les vêtements, enfin, l'actrice porte les vêtements qu'elle a dans la vie. James Bond contre Dr. No sort en 62 en Angleterre. $60 millions de bénéfices sur ce premier film. Vous imaginez, Ian Fleming est venu sur le tournage du film. Il est complètement surpris par ce succès. 5 millions de personnes en France vont voir le film. Évidemment, il va falloir récidiver. En 62, un second James Bond est donc adapté au cinéma. Il sortira en 63, c'est donc Bon Baiser de Russie. On est en pleine crise des missiles avec Cuba. Alors là, dans le scénario, James Bond doit récupérer une machine de déchiffrement top secret, le Lector. On va en dire un mot tout à l'heure parce que ça, il s'est inspiré pour en parler d'un épisode historique célèbre. Nouveau succès, Ian Fleming est devenu une star autant que Sean Connery, si je puis dire. Il commence à accorder des interviews à la BBC. On lui demande s'il y a beaucoup de Fleming dans ce personnage de 007. Et il répond « Les gens me comparent souvent à James Bond parce qu'il se trouve que j'aime les œufs brouillés et les chemises à manches courtes. Mais je n'ai sûrement pas son cran ni son appétit particulier pour les choses de la vie. » Qu'en termes élégants, ces choses-là sont dites. Il va falloir attendre le troisième James Bond en 64. Alors là, on est avec Goldfinger. Là, on peut dire que l'industrie James Bond prend un tout autre essor. C'est ce que nous allons évoquer avec Laurent Perriot dans un instant. Nous allons vous parler de la saga cinéma de James Bond. Bonjour Laurent Perriot.
Bonjour Franck.
Vous savez tout sur James Bond. Dans un instant, je vous laisse donc la parole.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
.fr. Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1.
Roger Moore incarnait James Bond dans ce 8e volet de la saga James Bond, Vivre et laisser mourir, chanson de Paul McCartney et les Wings. James Bond est au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, le spécialiste en France de James Bond, Laurent Perriot, porte-parole de l'exposition James Bond 007, 50 ans de style Bond, qui se tient jusqu'au 4 septembre à la Grande Halle de la Villette à Paris.
Et c'est pas une petite exposition qui tiendrait dans un mouchoir de poche. Je vous prie de croire que c'est spectaculaire. On a l'impression d'être sur un plateau de cinéma avec des grands décors, enfin des morceaux entiers de décors, avec des véhicules entiers, des hélicoptères, tous les costumes possibles et imaginables, et notamment les robes invraisemblables et souvent très 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 décolletées des James Bond Girls. Enfin, c'est une exposition grand spectacle qui est présentée à la Villette, hein, Laurent Perriot.
Je suis tout à fait d'accord, Franck, et c'est la première fois en France qu'il y a une exposition d'abord qui est consacrée à James Bond et qui rassemble pas loin de 600 objets venant des films. C'est-à-dire que c'est authentique, ce ne sont pas des choses fabriquées.
Mais ce n'est pas des reconstitutions, voilà.
Il y a quelques petits costumes qui ont été refaits parce que contractuellement, dans les années 60, les acteurs pouvaient emporter une partie de leur garde-robe. Mais il y a très très peu de pièces et en plus, ces pièces ont été recréées sous la supervision des producteurs de James Bond. Donc, on peut y aller, il n'y a pas de souci avec ça.
Oui, il y a même un petit côté, disons-le, mais je dis ça avec le sourire, mais un petit côté fétichiste, hein, parce que parfois, il y a des vitrines, alors on voit les gens se précipiter autour de la vitrine, et qu'est-ce qu'il y a ? Ben, il y a un accessoire en plastique qui est un des pistolets de tournage.
Tout à fait, ou le dentier de requin qu'utilisait Richard Kiel dans L'espion qui m'aimait, dans Moonraker. On va trouver effectivement un modèle miniature qui a servi dans une séquence de trucage. Enfin, il y a moult choses à voir sur l'univers de James Bond, effectivement.
Alors, on va clore le chapitre purement historique, si je puis dire, pour entrer dans les films et à travers un certain nombre des grands interprètes de James Bond, puisque c'est presque un peu comme une famille royale, comme une dynastie, hein. Il y a des airs en fonction des acteurs. Quelques mots quand même sur ce Ian Fleming, qui a mis beaucoup de lui-même dans James Bond et beaucoup de son expérience dans les services secrets navals, en fait.
J'ai envie de vous dire que James Bond est un peu une transposition romancée et fantaisiste et embellie de ce que Ian Fleming a vécu quand il travaillait pour la marine royale anglaise et les services secrets. Il s'est servi de beaucoup d'histoires qui lui sont arrivées, de missions. Par exemple, vous mentionniez tout à l'heure le lecteur dans Bon Baiser Russie. Voilà, oui. Ça vient effectivement de l'affaire de la machine Enigma que la marine nazie utilisait pendant la Seconde Guerre mondiale et dont Fleming a été en charge ou en tout cas à l'origine d'une mission qui a été dont le but était de récupérer cette machine.
Nous avions consacré d'ailleurs une émission à cette machine de cryptage Enigma et à son déchiffrement qui a été une des grandes affaires de la Seconde Guerre mondiale. Alors, puisque je parlais de déchiffrement, il y a une autre explication à ce nom, à ce code 007 pour désigner l'agent James Bond, puisqu'en fait 007 ça veut aussi dire qu'il est titulaire d'une fameuse license to kill, il a le droit de tuer. Hein.
Exactement, le premier 0 signifie qu'il a le permis de tuer. Le deuxième 0 qu'il a déjà tué en mission et le numéro 7 parce qu'il est le 7e agent à avoir ce matricule. Et quant à James Bond, vous l'avez mentionné tout à l'heure, en fait c'est le nom d'un ornithologue qui avait écrit « Birds of the West Indies » que, effectivement, un jour, Ian Fleming avait trouvé à la Jamaïque alors qu'il résidait à GoldenEye.
Je crois d'ailleurs que dans une adaptation assez récente d'un épisode de Miss Marple, alors là on retombe dans quelque chose de beaucoup plus boîte à bonbons, on voit Miss Marple assister à la découverte par Ian Fleming de ce nom de James Bond. Enfin, ça c'est une toute petite parenthèse.
Alors,
ça nous amène dans la télévision plus que dans le cinéma. Le premier film n'aurait pas dû normalement être James Bond contre Dr No.
Pas du tout. À la fin des années 50, Ian Fleming, qui souhaitait vraiment alors voir son héros arriver au cinéma, parce qu'il n'avait pas été très très satisfait de la première adaptation pour la CBS en 54 de Casino Royale avec Barry Nelson. Il croyait fortement à un projet ou télé ou cinéma qui aurait dû s'appeler James Bond of the Secret Service, et qui en fait est le scénario qui a donné naissance au roman Opération Tonnerre. Et quand effectivement les producteurs de James Bond se sont associés, sont allés voir United Artists, ils avaient pour projet initial d'adapter Opération Tonnerre. Mais pour l'époque, c'était trop compliqué, trop coûteux.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'actions, donc des effets spéciaux impressionnants.
Des séquences sous-marines.
Et puis voilà, beaucoup de séquences sous-marines et des décors impossibles.
Complètement. C'était un petit peu trop tôt pour faire ce genre de film et le proposer aux gens. Et donc, du coup, ben, ils ont décidé d'utiliser James Bond contre Dr. No.
Le plus modeste, on va dire. Hein, celui qui se passe dans, un même environnement.
Casino Royale aurait pu être modeste aussi,
oui,
mais
vrai,
bon,
oui.
Voilà, ils ont choisi James Bond contre Dr. No. Effectivement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, choisi un acteur quasi inconnu qui avait comme seul fait de guerre notoire d'avoir joué dans une série B Disney qui s'appelait Darby O'Gill et les Farfadets. Mais voilà, Sean Connery a été
ensuite,
casté.
Ensuite, il va jouer dans Pas de printemps pour Marnie, hein,
oui,
de
alors,
Hitchcock.
Quelques années voilà, après. Ouais. Mais il n'y avait pas que lui hein, dans les rangs à l'époque. Il y avait déjà un certain Roger Moore. Il y avait Patrick McGowan. Il y avait David Niven. Il y avait Cary Grant. Et les acteurs un petit peu britanniques,
voilà, oui,
charismatiques en vogue
voilà,
de l'époque. Je crois que Sean Connery n'était pas le choix préféré de Ian Fleming, qui n'y croyait pas du tout au début. Et c'est pour ça que Terence Young a décidé de dire, voilà, on va prendre cette pierre brute, on va la polisser, je vais l'amener chez mon tailleur, chez Anthony Sinclair, qui a créé ce fameux style conduit du costume qu'utilise Sean Connery dans les James Bond, et a décidé un petit peu, Terence Young aussi, d'insuffler ce look. Donc le succès de James Bond, il tient, bien sûr, à la nouveauté qu'étaient ses films, parce que dans les années 50, les films d'espionnage étaient quelque chose de très sombre. Là, on arrivait avec ce côté carte postale. Et puis, le succès avec ce premier film, bien qu'il ait coûté pas si cher que ça, il vient aussi du génie d'un chef décorateur comme Ken Adam,
bien sûr.
A su pour pas cher, mais avec un peu d'astuce et un sens des perspectives.
Il y a des perces, justement, des perspectives de Ken Adam dans l'exposition.
Tout
c'est magnifique. Hein.
Complètement. On doit ça aussi à l'habillage, le fabuleux générique créé par Maurice Binder où Bond marche dans un canon. Et puis la musique, le James Bond thème.
Et le canon qui se remplit de sang.
De sang,
hein,
exactement. Sûr. Et le James Bond thème créé par Monty Norman, mais réarrangé par John Barry.
Alors je disais que le grand tournant, c'est Goldfinger en 1964. Pourquoi ?
C'est, je dirais, l'archétype du film de James Bond qui a vraiment établi une reconnaissance, un succès planétaire, l'arrivée des gadgets, de méchants plus vrais que nature, de décors incroyables, de situations de plus en plus périlleuses, et puis
de
grands spectacles, et finalement ça a eu une incidence sur la pop culture, un peu comme les Beatles.
Alors en même temps c'est le début de toute la grande série des films qu'on connaît, et c'est la fin, si je puis dire, du lien avec la série romanesque, parce que le James Bond à partir de 65, à partir d'Opération Tonnerre en 65, ça n'est plus vraiment tout à fait le James Bond de Ian Fleming, ça devient justement l'objet d'un très grand spectacle. Et ce qu'on vient voir quand on va voir un James Bond, c'est un grand spectacle, hein, c'est
complètement.
Ça.
Malgré tout, c'est vrai que les histoires se sont un petit peu distillées au fil du temps, et que les histoires d'Ian Fleming se sont un peu éloignées. Néanmoins, dans tous les films de James Bond, il y a toujours un élément qui vient d'un film de Ian Fleming. Alors, au-delà du titre, il peut y avoir le nom d'un personnage ou une situation. Par exemple, dans Permis de tuer, en 89, avec Timothy Dalton, son ami de la CIA, Felix Leiter, se fait dévorer les jambes par un requin. Ça vient du roman Vivre et laisser mourir de Ian Fleming. Donc, on retrouve malgré tout l'esprit de Ian Fleming émietté dans tous les films, mais pas forcément les histoires.
J'ai une mauvaise nouvelle, Laurent Perriot. Il ne nous reste pas un temps fou. Or, nous n'avons pour l'instant parlé que de Sean Connery. Reste Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, évidemment Daniel Craig, et puis quand même un certain George Lazenby, dont plus personne ne parle.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1.
James Bond blond, incarné par Daniel Craig. La musique de Skyfall, interprétée par Adele. James Bond est au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et vous recevez Franck Ferrand, le spécialiste en France de James Bond, Laurent Perriot, porte-parole de l'exposition James Bond 007, 50 ans de style Bond, qui se tient jusqu'au 4 septembre à la Grande Halle de la Villette à Paris.
Avec un catalogue qui s'apprête à devenir un collector et qui est un peu plus étoffé, me disiez-vous, que le catalogue version anglaise, hein, puisqu'on a ajouté justement le Spectre.
On a ajouté Spectre, puisque c'est la première fois en Europe que certains objets de Spectre, à commencer par un des 10 exemplaires de l'Aston Martin DB10, mais aussi des costumes et quelques accessoires utilisés dans le film Spectre, sont présentés pour cette exposition et pour la première fois en Europe.
On ne va pas s'étendre sur George Lazenby, mais qui était-il ? Il a fait un film au service secret de Sa Majesté.
Et quel James Bond ! C'est un film d'abord qui était très fidèle au roman d'Ian Fleming. Un film qui explique pas mal de choses. Bond se marie dans ce film. Il épouse Tracy Di Vincenzo, qui devient Tracy Bond, interprétée par la fabuleuse Diana Rigg, qu'on a connue dans le rôle de Hem Appel dans Chapeau melon botte de cuir. Et à la fin du film, elle est tuée par Irma Bunt, qui est le bras droit de Blofeld, le chef de Spectre. Et ce qui explique un petit peu la déchirure de James Bond par rapport aux femmes.
Alors c'est intéressant parce qu'on est en 69, la société, notamment la société britannique, mais pas seulement, est en train de basculer, de changer. James Bond change de style d'une certaine manière. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres Lazenby ? Pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté à...
D'abord, le film n'a pas eu le succès escompté. George Lazenby s'en est très bien tiré parce que finalement, il était plus mannequin que comédien à l'époque. Mais il avait un agent un petit peu mentor, influent, qui lui a dit « Non, ne t'enferme pas là-dedans, ça va gâcher le reste de sa carrière. » Et pour avoir rencontré à maintes reprises George Lazenby, je peux vous dire que c'est un des grands regrets de sa vie.
Alors vous, vous êtes tombé dans James Bond, si je puis dire, via L'Espion qui m'aimait en 77, moi via Moonraker en 79, peu importe, notre génération, pour nous au départ, James Bond, c'était Roger Moore. Et alors ça, c'est très étonnant parce que je me rappelle qu'il y a encore 10 ou 15 ans, il n'avait pas bonne presse. On disait « Ah non, James Bond, c'est Sean Connery, Roger Moore est nul ». Moi, je trouve qu'il est formidable, au contraire.
Roger Moore a eu la lourde tâche, c'est d'enfiler les chaussons de Sean Connery.
Oui.
Alors, c'est pas évident. Et s'il avait fait du Sean Connery en étant du Roger Moore, ça n'aurait pas marché. Il était obligé d'adapter finalement son propre style parce que Roger Moore ne fait pas vraiment James Bond, il fait du Roger Moore, le sein, Brett Sinclair, le sourcil un peu en l'air. Mais il avait ce fameux recul nécessaire.
C'est une star de télé, hein, il faut dire.
C'est une star de télé, c'est-à-dire qu'à l'inverse de Sean Connery qui était un parfait inconnu, là, c'est quelqu'un de connu qui arrive dans le rôle. Ça s'est reproduit avec Pierce Brosnan dans les années 90, qui était connu pour Remington Steele. Mais voilà, il a su conquérir une nouvelle génération de fans. On est toujours, comme vous hein, et moi, influencés par le James Bond avec lequel on a grandi. On a trouvé ses aventures extraordinaires. Puis ensuite, on a découvert effectivement ce fameux Sean Connery.
Et puis, à une époque où James Bond avait tendance à s'américaniser singulièrement, il nous rend le côté british. C'est-à-dire que là, il y a un portrait de la reine Elisabeth, toutes les trois images, si je puis dire. On est vraiment dans le film d'espionnage anglais avec Roger Moore. Et ça, ça joue un rôle.
C'est un ambassadeur de la Grande-Bretagne incroyable, Roger Moore. Et James Bond plus largement, tout à fait.
Alors, il va avoir une grande longévité, lui, puisqu'on voit Moore jusqu'au dans Dangereusement Vôtre en 1985. C'est peut-être aussi l'époque où, comment dirais-je, les films de James Bond, chaque parution est un tel événement planétaire que jouer dans un James Bond devient essentiel. Et il y a notamment, là, il faut faire la part des fameuses James Bond Girls. Hein, faut expliquer.
C'est une carte de visite incroyable pour un comédien ou une comédienne de jouer dans un James Bond. Et contrairement à ce que certaines idées préconçues veulent être distillé un petit peu dans les médias, ça ne casse pas une carrière d'être une James Bond girl. Regardez Carole Bouquet, elle a une carrière formidable. Sophie Marceau aussi. Donc c'est souvent une chance d'une exposition internationale que de jouer dans un James Bond. Après, ça dépend de comment on gère l'après.
Octopussy a un côté un peu halluciné ou c'est moi qui avais...
Dans quel sens ?
Vous ne trouvez pas que le film est un peu... Il est esthétiquement assez particulier, non ?
Alors, d'abord, il a une intrigue très compliquée.
Très compliquée.
On est sur une fin de guerre froide, hein, quelques années avant la chute du mur de Berlin. Certains Russes soviétiques regrettent un peu l'ancien système. Voilà, il y a quand même une trame très compliquée à suivre dans ce film. Mais oui, le côté un petit peu fantasy, ça se passe en Inde. On voyage beaucoup dans ce James Bond, c'est une vraie carte postale.
Oui.
Donc oui, de ce point de vue-là, je peux être d'accord avec vous.
Il y a toujours au début du film cette fameuse scène Linky Pit, hein, la scène d'avant-générique,
de
pré-générique qui est censée vous coller à votre dossier. Hein, vous êtes scotché à votre fauteuil.
C'est une bande-annonce à elle-même, cette séquence. On met vraiment énormément de moyens.
Moitié du budget du film dans les trois premières minutes.
Non, mais en tout cas, je peux vous dire qu'effectivement, à chaque fois, il faut que ça ait un impact sur le spectateur pour vous dire attention, là, on y va, on y est, vous allez être collé à votre siège et ce qui va suivre après le générique, ça va être formidable. C'est vrai qu'il y a des pré-génériques comme ça qui sont mythiques, comme le saut dans le vide de Roger Moore dans L'Espion qui m'aimait avec son parachute, ou le saut de Moonraker sans parachute justement d'un avion. Mais on ne peut pas tous les citer, mais je pense qu'à chaque fois, c'est un renouvellement, une réinvention et il faut essayer de faire plus fort que la fois précédente.
Tuer n'est pas joué et Permis de tuer, 87-89, un nouveau James Bond, cette fois c'est Timothy Dalton.
Timothy Dalton, qui est un James Bond, entre guillemets, accidentel, alors un accident heureux. Mais c'est Pierce Brosnan qui a été engagé pour succéder à Roger Moore en 86. Il a d'ailleurs fait ses bouts d'essai, signé son contrat, commencé à tourner le film, mais il avait encore une clause de contrat sur Remington Steele, et suite à la médiatisation en étant le nouveau James Bond, ils ont réussi à re-signer une saison et ils n'ont pas voulu le lâcher. Donc excite Pierce Brosnan, et Timothy Dalton, qui avait déjà été repéré plus jeune, bah finalement a été engagé pour faire ces deux films de James Bond.
Alors on a pu croire à une époque, au tournant des années 90, que James Bond allait perdre un petit peu sa spécificité. La section Q n'était plus si présente, si je puis dire. Les personnages voyaient un petit peu s'atténuer leur spécificité. Et puis surtout, on perdait les gadgets qui quand même avaient fait la célébrité du personnage dans les années 60.
En fait, je vais vous dire, James Bond, on va parler un peu de géopolitique, mais il a toujours les adversaires de son époque. Dans les années 60, sous fond de guerre froide, Bond a principalement combattu le Spectre, Blofeld ou ses sbires. Mm-hmm. Puis dans les années 70...
Donc là, c'est quand même l'Union soviétique qui est visée derrière.
Oui,
hein,
mais elle est sous-jacente. Mm-hmm. Dans les années 70, Bond va plutôt avoir pour adversaire des savants fous, des mégalos. On va recréer le monde avec une race génétiquement parfaite, avec beaucoup de gadgets à cette époque-là. Puis à la fin des années 80, bah oui, le mur de Berlin tombe. Alors, fini les savants fous,
C'est la fin d'une certaine génération d'espions, il faut dire.
Tout à fait. Mais alors voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de James Bond, que c'est une relique de la guerre froide? Ben non, il y a des sales types, des capitaines d'industrie qui veulent faire leur coup en douce, qui veulent détourner les cours d'eau, par exemple comme dans Quantum of Solace, ou contrôler la distribution du pétrole dans Le Monde ne suffit pas, ou contrôler l'information comme dans Demain ne meurt jamais. Donc James Bond fait face à de nouveaux défis géopolitiques. Il utilisera quand même pas mal de gadgets pendant la période Pierce Brosnan.
Alors voilà, c'est ça. On peut dire qu'avec Pierce Brosnan, en quelque sorte, James Bond is back.
Bah après 6 ans d'absence pour des raisons juridiques, ça va être un petit peu long à expliquer ici. Et puis après le peu de succès finalement de l'ère Timothy Dalton,
ce qui est pas très... On n'y croyait plus trop, hein, faut le dire.
Oui,
les choses,
c'est pas très légitime, parce que je trouve que Timothy Dalton a eu au moins cet effet positif sur la série, de vouloir se recentrer sur l'esprit d'Ian Fleming. Et si on regarde notamment Permis de tuer aujourd'hui, son interprétation, c'est un peu un blueprint de ce qu'est le James Bond de Daniel Craig aujourd'hui. Un James Bond plus sombre, plus dur, plus froid,
authentique
et plus humain aussi.
Oui, voilà, c'est ça.
Donc voilà, oui, ensuite, voilà, Pierce Brosnan a relancé dans les années 90, là pour le coup, de façon brillante la série, jusqu'en 2002, avec l'utilisation de beaucoup d'ingrédients, à la fois issus des années 60, à la fois issus des années 70, tout en apportant sa propre humanité au personnage, et avec des situations qui correspondent à l'époque.
Et qui décide de l'incarnation du célèbre 007?
Alors écoutez, je dis toujours d'abord qu'ils ont été 6 à ce jour, interprétés James Bond. Ça fait finalement moins de personnes que d'astronautes qui sont allés sur
la Lune. Oui.
En général, ce sont évidemment les producteurs de James Bond, Ion Production, donc Cubby Broccoli par le passé, et maintenant Barbara, sa fille, et son beau-fils Michael Wilson. Et puis bien sûr, le studio associé United Artists, MGM, qui est aujourd'hui contrôlé par Sony.
Je trouve que c'était très intéressant ce que vous nous dites, ce reflet de la société, en quelque sorte, James Bond ayant à chaque fois les ennemis de son époque. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point la psychologie même de James Bond reflète un peu les préoccupations du moment. C'est vrai qu'avec Timothy Dalton dans les années, à la fin des années 80, on est encore dans un James Bond qui peut se permettre d'être insouciant, d'être complètement, intégralement à sa tâche et à sa mission. Avec Pierce Brosnan, on est dans un James Bond qui est frénétiquement dans la lutte contre les grands dangers, notamment ces arsenaux énormes, ces arsenaux nucléaires qui peuvent tomber entre les mains de n'importe qui. Et puis, alors à notre époque, avec Casino Royale en 2006, Quantum of Solace 2008, Skyfall 2012, et puis là, l'année dernière, Spectre, nous arrivons à une période d'introspection, en quelque sorte, un petit peu de décadence, il faut bien le dire. On a l'impression que Daniel Craig est effectivement beaucoup plus sombre et beaucoup plus fragile que tous ses prédécesseurs.
C'est juste, mais ça tient aussi à une volonté des producteurs. Vous aurez peut-être pas échappé que l'arrivée de Daniel Craig correspond à un reboot du personnage, puisque Casino Royale est finalement sa première mission officielle, hein, puisque c'est dans le pré-générique
revient à la source.
Voilà, qu'il va acquérir son permis de tuer. Vous savez, ce pré-générique d'ailleurs qui est en noir et blanc, pour la première fois dans un James Bond. Et c'est une réinvention du personnage qu'on transpose à notre époque, mais qui emprunte là pour le coup beaucoup à l'esprit d'Ian Fleming, avec cet ancien militaire en quelque sorte, qui est une espèce de pierre mal dégrossie, et qui va au fur et à mesure et au fil des films se polisser pour se retrouver avec, au fur et à mesure aussi des films, les éléments iconiques qui ont fait le James Bond qu'on a aimé tous les films d'avant. L'Aston Martin, le smoking, les gadgets, pour nous amener jusqu'à Spectre, qui est une sorte de classicisme bondien réinventé et réadapté aux années 2000.
Avec, et ça c'est le génie des Britanniques, presque mieux encore que les Américains, cette capacité à jouer avec les archétypes. On a des personnages qui sont très célèbres et qui sont tellement célèbres qu'on peut carrément les transformer. Je pense à M, par exemple, qui devient une dame quand même.
Alors, effectivement, Stella Remington, dans les années 90, c'était le chef du MI5.
Oui.
Le MI6, ce sont les services secrets extérieurs. MI5, c'est l'intérieur. Et en 95, quand Pierce Brosnan est arrivé dans le rôle dans GoldenEye, effectivement, M a été une femme pour la première fois, interprétée par Judi Dench,
qui
ne manque pas de dire à James Bond « J'aurai moins d'égards pour vous que mon illustre prédécesseur
». Alors que ce n'est pas vrai, ça, on verra que ce n'est pas si vrai. Mais ça change quand même tout. Et ne parlons pas de Q, qui maintenant est une espèce de petit génie, là encore.
Ben voilà, Q, l'acteur original d'Esmond Llewellyn qui a joué dans tant de films de James Bond, est mort en 99.
Il y avait un côté tellement phlegmatique comme ça, oui.
Auquel on avait adjoint R, interprété par John Cleese, qui gagne le grade de Q dans Meurt un autre jour en 2002. Mais voilà, avec le long hiatus entre la période Pierce Brosnan et Daniel Craig et la réinvention du personnage, tout le casting a été revu, je dirais, à la nouveauté, sauf M, qui est toujours là. D'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à me faire expliquer des producteurs de James Bond. J'ai dit, écoutez, c'est formidable, mais pourquoi avoir gardé cette femme qui interprète le nouveau M alors que James Bond était déjà là? C'est bon, écoutez, c'est pas grave, c'est la magie du cinéma. C'est une actrice tellement formidable, Judi Dench, que c'était parfait.
Alors, on a assisté à cette chose absolument incroyable en 2012, au moment de l'inauguration des Jeux Olympiques de Londres. La reine d'Angleterre en personne, la vraie, qui joue dans une sorte de mini-épisode de James Bond et qui
exactement,
monte avec lui en hélicoptère.
Exactement, ça a été une opération de com assez extraordinaire pour la Grande-Bretagne et pour les Jeux Olympiques. Ça a été aussi une belle opération de com pour la famille royale, mais aussi pour James Bond. Et ça prouve qu'effectivement, 50 ans après, le lien
entre... Alors on voit
Daniel
Craig qui entre dans le vrai bureau de la reine à Buckingham.
Qui vient l'escorter... Hello, ma'am. Est-ce qu'on peut y aller et tout?
Elle part avec ses petits chiens, ses corgis.
Exactement. Ils prennent un hélicoptère ou un avion, je ne me souviens plus. Et ils sautent tous les deux en parachute au-dessus d'un des stades. C'est assez extraordinaire comme petit glip.
On a beaucoup, beaucoup lu la dernière fois, là, quand est sorti Spectre l'année dernière, dans la bouche de Daniel Craig, des propos d'ailleurs pas toujours très aimables et en disant c'est fini, ne comptez plus sur moi, il n'y aura pas de cinquième James Bond à mon nom. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Je pense que ce sont des propos pris sur le vif, sans doute sortis de leur contexte, après une grande lassitude. Vous savez, quand on passe 8-9 mois à tourner un James Bond et qu'on se tape 6 mois de promo derrière, on peut être assez là au bout d'un moment. Je voudrais juste quand même dire à tous ces gens-là que Daniel Craig est le premier acteur de James Bond à être producteur associé d'un film de James Bond. Parce que ça, personne ne le mentionne. Mmh. Donc, contractuellement, il est censé en faire un prochain. C'est une option. Je vous fiche mon billet qui sera le prochain James Bond.
Merci beaucoup, Laurent Perriot. Je rappelle à nos auditeurs que l'exposition de James Bond est à la Grande Halle de la Villette jusqu'au 4 septembre.
Vous restez avec nous au cœur de l'histoire continue sur Europe 1. Franck Ferrand, vous répondrez à la question de Thierry sur l'origine de l'expression se tenir à carreau.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et via la page Facebook de l'émission, Thierry vous demande, Franck Ferrand, quelle est l'origine de l'expression se tenir à carreau?
Mais c'est une origine de joueur de cartes, figurez-vous. Ça provient du dicton « Qui se garde à carreau n'est jamais capot ». On est à la fin du 19e siècle. Autrement dit, si vous surveillez votre jeu, vos atouts, vous restez sur vos gardes. Alors de quel carreau parle-t-on? Sans doute des carreaux d'arbalète, pardon. Parce qu'il faut vous dire que dans le monde des cartes, autrefois, le cœur représentait la cavalerie, le pic, l'infanterie, le trèfle, sans doute tout ce qui relevait de l'intendance, et puis le carreau représentait l'artillerie. On peut donc penser que se tenir à carreau, c'était tout simplement se tenir hors de portée de l'arbalète.